Merci pour votre invitation, merci pour la superbe soirée d'hier soir. Donc, je me présente, enfin, je me suis déjà présenté hier, donc Pierre Dupuis, praticien hospitalier au CHU de Poitiers et responsable d'unité fonctionnelle de biologie délocalisée.
Et donc, Sophie Pasini, PH en biochimie au CHU de Poitiers.
Donc, je reprends le. Plus en détail, la présentation de l'organisation du CHU de Poitiers. Donc, le CHU de Poitiers fait partie du GHT de la Vienne avec cette particularité. C'est, on pourrait dire, un CHU multisite puisque ce GHT provient de la fusion de différents sites. Poitiers, Loudun, Châtellerault, Montmorillon, mais c'est le CHU de Poitiers qui pilote l'intégralité de ces sites. Comme vous pouvez le voir, nous avons recours à la biologie délocalisée sur l'ensemble de ces sites. Étant donné qu'au niveau biologie, nous avons de la biologie 24-24 sur les sites de Poitiers-Montmorillon, Poitiers-Châtellerault, sur le site de Montmorillon, de la biologie que la journée et la biologie délocalisée la nuit, sur le site de Loudun. Pas de laboratoire, donc recours uniquement à la biologie délocalisée. Sur les trois sites, Loudun, Châtellerault, Montmorillon, ces appareils de biologie délocalisée sont positionnés au niveau des services de urgence dans un local dédié et au CHU de Poitiers dans divers services de l'établissement. Comme vous pouvez le constater, nous avons recours à des fournisseurs multiples et variés. Nous avons de nombreux automates, que ce soit de la QT radiométeur, que ce soit du RP500 IPOC Siemens ou Atelica VTLI, du DryChem de chez Sysmex pour de la biochimie, du Contra de chez Stago, du Spotfire Biomérieux, IDINO Abbott, enfin j'espère ne pas en oublier, mais nous avons recours à de multiples fournisseurs. Nous avons organisé aussi les sites de Loudun-Montmorillon de façon en miroir, avec exactement les mêmes automates et avec la possibilité, notamment pour les intervenants de Loudun, d'avoir une astreinte téléphonique ou un dépannage à distance par les techniciens de Montmorillon en raison des horaires de communication et pouvoir se dépanner et avoir un véritable mirroring. Alors, au niveau organisation de la biologie délocalisée au niveau du CHU de Poitiers, nous avons créé une unité fonctionnelle EBMD, de biologie délocalisée, avec un responsable qui n'est ni plus ni moins que le chef d'orchestre et de la mise en place de ce qui est décidé par les différents secteurs. Donc, cette UF est en relation directe avec la direction générale, avec les différents secteurs de biologie médicale, que ce soit biochimie, hémato, hémostase ou virologie. Avec ces secteurs, nous avons signé, alors vous nous excuserez, nous avons inversé les deux lignes de contrat et de charte, nous avons signé une charte de fonctionnement entre cette UF et les différents secteurs pour définir un fonctionnement optimal et définir surtout les responsabilités de chacun. Cette UF est en relation avec les diverses unités de soins, bien évidemment, plus d'une vingtaine, avec le secteur biomédical, et avec les différents sites du CHU de Poitiers. Alors ça nous a un peu arrangé, avantagé la suppression de la norme 22870, suite à l'apparition de la nouvelle version 1589 dans sa version 2022, nous avions déjà envisagé des groupes de la façon suivante, c'est-à-dire un comité de pilotage qui regroupe la direction générale, le président de CME, les responsables de pôle, les différentes directions, que ce soit des soins, le biomédical, ou ainsi de suite, et des groupes terrain on était un peu gênés par la définition du groupe d'encadrement, donc c'est des groupes terrain qui sont plus par service ou par pôle, et qui regroupent, là, les fonctions sont respectées, mais les personnes changent et on a le chef de discipline des EBMD, les cadres des différents sites, des différents services, les interlocuteurs qui sont nécessaires à la mise en place d'automates. Donc le premier groupe, lui, il va définir cette mission, des définitions de la politique des EBMD au sein des différents sites de l'établissement, définir le budget, c'est la direction générale, Et les groupes terrain, bah, ça va être plus les groupes applicatifs qui vont faire le choix des automates et la mise en place des automates dans les diverses unités de soins. Alors, ça a été dit tout au long de ces deux jours, mais il est vrai que ça peut marcher que si on a une bonne collaboration entre le laboratoire et les effecteurs dans les unités de soins, on a de la chance à Poitiers, on a une excellente collaboration, et notamment, on l'a vu hier, avec les urgentistes. Donc, notre défi, c'est de gérer un parc d'analyseurs hétéroclites provenant de différents fournisseurs, de gérer la compétence d'énormément d'opérateurs et de collaborer avec un nombre conséquent de services de soins répartis sur des sites différents. Donc, il nous est apparu important et primordial de mettre en place des indicateurs qualité pour piloter cette activité et être le plus efficient possible. Avec un suivi, il nous faut un suivi facile de ces indicateurs et il nous fallait choisir un middleware qui permettait l'ensemble de ces tâches. Alors notre choix s'est porté il y a 2 ans vers le middleware Poxcelerator de la société Siemens qui nous a permis de standardiser les procédures et de suivre ces indicateurs via le module CI Analytics de cette société. Donc vous avez l'exemple de l'indicateur sur la partie gauche de la diapositive. Nous allons vous en présenter que quelques-uns, je dirais, ceux que nous suivons au quotidien. Donc vous voyez, par exemple, le taux d'erreur opérateur, les formations, les habilitations, les erreurs d'identité patient, alors ça fait peur, mais bon, on va l'expliquer, et puis l'utilisation, par exemple, des ressources matérielles.
Alors le premier exemple qu'on va vous présenter, c'est comment simplement, avec le logiciel donc, de Poxcelerator et son module CI Analytics, on peut faire des audits de traçabilité et on peut répondre à la réglementation et aux exigences COFRAC. Alors, quand on se connecte sur ce genre de logiciel, il y a toujours plein d'outils, des tableaux, des graphiques, et c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on recherche vraiment, et savoir quel tableau va permettre de répondre à nos besoins. Donc là, on a pris un exemple de traçabilité sur un test de créatinine qui est fait sur le DryCam 500, et on peut retrouver notre patient, retrouver l'opérateur qui a réalisé le test. On peut également vérifier que la série analytique a été encadrée par des contrôles qualité. Donc chez nous, sur ce type d'automate, c'est les techniciens BMD qui réalisent 2 contrôles qualité par semaine, avec 2 niveaux à chaque fois. Et on retrouve l'eau de réactif utilisée. Donc très simplement, on peut faire un audit de traçabilité. On peut aller même plus loin, on peut regarder si l'opérateur ayant réalisé le test est bien habilité. Donc là, on voit que son statut est bien actif. Et donc, ça permet de retrouver nos petites informations rapidement et facilement.
Alors, au niveau formation, alors j'ai déjà parlé de la nouvelle version de la norme, et dans cette nouvelle version, enfin tous les biologistes le savent, il y a une annexe spécifique concernant la formation. Alors, nous avions pris le pari à Poitiers de ne rien déléguer aux unités de soins, c'est-à-dire de dépêcher les techniciens EBMD ou les biologistes quand c'est nécessaire, pour aller former tous les opérateurs dans les unités de soins. Que ça soit des formations initiales, ou des rappels de bonnes pratiques que nous faisons principalement pour l'activité des gaz du sang, qui se font par service et au moment des transmissions, des réunions flash, comme j'ai dit hier, de 5 minutes, vraiment sur les conditions importantes du respect du pré-analytique. Ces formations nous servent ce nombre de formations par intervenant, enfin au niveau du laboratoire par technicien, nous servent d'un indicateur de qualité et d'un objectif, notamment pour les entretiens d'évaluation. Donc nous avons réalisé plus de 150 formations sur les 12 derniers mois, donc c'est quand même une activité qui nous prend un petit peu de temps. Alors, ce module nous a aidé dans cette formation parce qu'il est disponible déjà sur l'ensemble du réseau intranet du CHU. Comme vous voyez sur le pavé du milieu, n'importe où dans le CHU, sur n'importe quel PC, on a accès au logiciel. La personne peut, avec ses codes, avoir accès au e-learning, c'est-à-dire qu'on leur affecte un e-learning concernant les automates sur lesquels ils doivent être formés. Et avec ce e-learning, alors nous, on se déplace justement pour le... Vous avez en haut à droite la formation, enfin le support de formation. Donc là, nous expliquons enfin, tout ce que nous avons expliqué. Et ensuite, l'opérateur peut faire son questionnaire d'habilitation qui lui valide son habilitation et le droit à utiliser l'automate. Donc ce qui nous permet de répondre assez facilement à toutes les exigences, et surtout les exigences, alors c'est ce que j'ai dit hier, l'exigence c'est une chose, le COFRAC c'est bien beau, mais le tout c'est d'avoir des opérateurs qui sont aptes à utiliser les automates. Je dirais que l'exigence et le COFRAC ne vient qu'après, en fait, contrôler que les habilitations sont conformes.
Alors, pour ce qui est du maintien d'habilitation, c'est toujours en utilisant Poxélérator qu'on fait ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est par automate. On choisit, du coup, d'activer différents objectifs. Ça pourrait être des cours d'e-learning, ça pourrait être regarder un opérateur réaliser un test, ou ça peut être des outils de performance, un nombre de CQI à passer dans une période donnée, un nombre de EQ. Et nous, on a choisi donc un nombre de patients sur une période donnée. Donc, sur la majorité de nos automates, donc là, c'est toujours un exemple d'IDINA ou d'ABOT, il faut avoir réalisé 2 tests par an pour continuer à pouvoir utiliser l'automate. Par contre, on a beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'automates, et ça nécessite quand même une certaine adaptabilité. Par exemple, pour les gaz du sang, on avait prévu de faire 3 tests en 6 mois, c'était la seule exception, mais on a un service de maternité qui nous contactait régulièrement en nous disant « ça ne nous arrange pas du tout vos critères de maintien d'habilitation, parce que nous, nos sages-femmes, changent de poste tous les 6 mois. Donc, on est bien tous conscients que si on revient après 6 mois et 2 jours, on sait toujours utiliser l'automate. Et du coup, on s'est adapté, on a changé un peu nos critères, et on a choisi de faire 5 tests en 8 mois, en prenant en compte donc l'avis de notre service, notre unité de soins, quoi, partenaire. Sur la droite, vous voyez aussi qu'on peut très facilement donc voir les opérateurs qui sont actifs, les opérateurs qui sont expirés, et puis on a un suivi en temps réel du nombre de tests effectués et savoir si les opérateurs vont être recertifiés automatiquement ou non. On pourrait, c'est pas ce qu'on a choisi de faire, mais on pourrait choisir de regarder les opérateurs qui expirent à 30 mois et puis contacter les cadres des services de soins et leur dire attention, il y a telle et telle personne qui vont bientôt expirer, et donc on peut s'organiser soit faire des tests, soit aller les voir pour les reformer et qu'il n'y ait pas de coupure finalement dans l'habilitation. Alors comment ça se passe concrètement au CHU de Poitiers? En général, c'est plutôt quand le badge ne marche plus, le badge opérateur, qui contacte le CHU, et nous, très vite, on essaye de répondre à leurs demandes. Donc on va pouvoir, sur une courte période, leur autoriser l'accès à nouveau, et puis on va prendre rendez-vous avec eux, évaluer leurs besoins et faire une reformation si nécessaire. Donc le maintien d'habilitation, comme on vous le disait aussi tout à l'heure, on essaye de l'accompagner d'une formation à minima une par an et par service, avec un rappel de bonnes pratiques. Voilà. Alors comment on peut suivre également l'acceptation ou la prise en main des automates par les opérateurs? Là, c'est un exemple d'indicateur qualité qu'on suit plutôt lorsqu'on met en place un nouvel automate, et c'est regarder les résultats invalides. Donc ça marche très bien pour les IDINA ou DABOT, parce que les résultats invalides peuvent signifier un problème préanalytique ou analytique lors de la réalisation du test. Ça pourrait marcher également très bien pour les ATELICA VTLI, où il y a aussi ce système de résultats invalides qui peut signifier donc un problème lors de la mise en place de la cartouche lors du test analytique. Donc là encore, sur le module CI Analytics, très facilement, on peut, sur les données de charge de travail, choisir, donc on filtre toujours pareil sur notre automate, on peut choisir les résultats invalides, et puis on obtient ce type de graphique. Alors à gauche, c'est le nombre d'invalides sur une période donnée, donc c'est un peu toujours pareil, nous on a débuté les Covid aux urgences au mois de juin 2022, donc le nombre d'invalides était faible parce que ça venait d'être mis en place et c'était pas utilisé en routine, et puis on voit que dans les mois qui ont suivi, forcément le temps que les opérateurs se forment et prennent en main l'automate, on a un nombre d'invalides qui est un peu plus important. On peut très facilement, en modifiant les filtres, avoir le pourcentage d'invalides par opérateur. Alors attention, ce pourcentage, c'est le nombre de tests invalides réalisés par un opérateur sur l'ensemble des tests invalides. Donc ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse, mais ça permet quand même de cibler des opérateurs qui nécessitent d'être formés. Et très facilement, toujours pareil, on reclique sur une personne et on filtre plus que sur lui. Donc là à gauche, c'est le nombre d'invalides pour un opérateur donné. À droite, c'est le nombre de tests réalisés sur la période. Et on peut très facilement voir si l'opérateur a réussi à prendre tout seul en main l'automate, finalement, ou s'il nécessite une reformation. Toujours pareil, on se déplace dans les services, on lui réexplique, on lui remontre et on répond aux questions si besoin.
Alors, ce module nous permet aussi alors, de suivre facilement l'activité. Donc, par exemple, sur la partie de gauche, je crois que c'est le site de Montmorillon avec le nombre de tests effectués par automate. Bon, après, comme a dit Sophie, on peut cliquer sur et zoomer et aller jusqu'à l'opérateur. Donc, ça permet facilement d'avoir des éléments d'entrée pour la revue de direction qu'on fait annuellement et de voir si l'automate est justifié, si on laisse l'automate en place, si on doit adapter, si ça nous a permis d'ailleurs en collaboration avec les urgentistes d'enlever certains automates, notamment un CoaguCheck par exemple où ils n'avaient pas d'utilité. Ça nous a permis aussi de supprimer RP500 dans un service de soins parce que c'est quand même... Pour mettre des automates, c'est quand même facile. Enfin, je pense que vous serez d'accord dans un service de soins. Pour les retirer, c'est quand même moins facile. Enfin, j'ai tendance à dire qu'il faut arriver la nuit avec un sac à dos, une cagoule et s'en aller très vite. Quoi, parce que, voilà. Sur la partie droite, alors, ça nous permet aussi de comparer, de savoir si on est dans les respects de nos engagements initiaux. Alors ça, c'est assez récent. C'est suite à la mise en place d'un contrat en réanimation chirurgicale. Avec un engagement, alors comme tout le monde le sait, alors c'est très utile en réanimation, il n'y a pas de débat, mais c'est un automate où les cassettes sont relativement coûteuses, donc on était parti sur un engagement annuel, et ce qui nous a permis, au cours des différentes réunions qu'on a eues avec l'anesthésiste réanimateur, de bien vérifier finalement qu'on tenait peu ou prou nos engagements par rapport au départ. Alors, avec ce logiciel, ça nous permet aussi, alors c'est là où je vous parlais d'échantillons invalides, ça nous permet aussi de réattribuer les identités patients. Alors, on n'avait pas prévu de s'attarder trop sur cette diapositive, mais finalement, on a eu 4 questions hier, donc on va l'expliquer. Ça, c'est on a mis en place une fiche pour les SMUR, pour les troponines qui seront réalisées en SMUR, une fiche pour l'identitovigilance. Alors cette fiche, je prends une minute pour le détailler suite aux questions que j'ai eues en aparté hier. Donc c'est comme un carnet de commandes avec une fiche principale, un carbone. La fiche principale sera détachée, le carbone restera dans le cahier. Et nous avons fait pour chaque couple de feuilles un code barre unique sur la première page. Sur la deuxième page, nous avons fait le même numéro mais sans code barre pour éviter que les soignants puissent rescanner un numéro qui a déjà été utilisé. Donc, après un atelier gommette et collage, on a transmis ça dans les SMUR. Lors de la sortie en SMUR, les IDE ou les infirmiers notent manuellement le nom du patient, le prénom, la date de naissance et ainsi de suite. L'enregistrement du patient au niveau de l'hôpital, une étiquette enregistrement patient est collée et cette feuille est mise de côté dans une bannette et les techniciens les récupèrent pour réattribuer sur le logiciel avec le numéro de séjour valide et que les résultats puissent être intégrés sur les serveurs de résultats. Alors, avec toutes les règles pour faire attention, les réattributions et ainsi de suite. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'avec Jérémy Guénézan, qui était présent hier, nous avons construit cette fiche, notamment pour une étude médico-économique pour la troponine avec Atelier VTLI dans les camions du SMUR, avec quelle aurait été l'orientation du patient sans troponine. Au milieu, vous avez le résultat de la troponine. Quelle est l'orientation du patient en prenant en compte la troponine? Alors ça, c'est là, les patients ne sont pas connus. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire on a des patients, ce qu'on appelle en erreur de mesure, c'est-à-dire des patients où ce n'est pas la bonne étiquette qui est scannée dans le service de soins. Même combat, on peut réattribuer. Mais ça nous permet, et ça c'est plus intéressant, de, entre guillemets, lever des lièvres et de voir que finalement, ça va être toujours à la même heure, selon dans le même service où il va y avoir une erreur. Et on s'est rendu compte que dans un service la nuit, bah, les IDE déléguaient la tâche aux aides-soignants qui ne savaient pas quelle étiquette scanner. Donc bah, on s'est retrouvé avec des dysfonctionnements comme ça. Alors, messieurs, mesdames les évaluateurs, fermez vos oreilles, mais je pense que c'est partout. Enfin, partout, on est confronté à ce genre de pratique. Et ça nous a permis de rectifier le tir et ça permet d'aller cibler en fait les interventions. Donc, concernant ces indicateurs, nous vous avons présenté que quelques indicateurs que nous avons mis en place à Poitiers, mais comme vous voyez sur ce tableau de bord, on peut faire plein de choses et on peut suivre vraiment ce qu'on a envie de suivre sans problème. Donc cette mise en place, ça nous a permis, alors en dehors de la conformité réglementaire, qui je dirais c'est une obligation, mais ça découle des bonnes pratiques, de piloter cette activité de biologie délocalisée, de suivre des consommations, de suivre les opérateurs, de suivre via les contrôles de qualité, voir tout ce qui se passait, est-ce qu'on est conforme, est-ce qu'on n'est pas conforme, vraiment de piloter cette activité et d'essayer d'être plus efficient. Voilà, nous vous remercions.